Bonjour David, bonjour à tous. La suspension de la prime rénov inquiète les professionnels du bâtiment. Illustration avec la CAPEB des Deux-Sèvres, désormais présidée par Mickaël Berthelot. À compter du 1er janvier prochain, la société Agur deviendra le prestataire pour la gestion de distribution de l'eau potable du SVL. À suivre le reportage de Fabien Gazo. Oléosine, une usine ultra moderne à Thouars avec le premier atelier de raffinage d'huile 100% bio en France. Après Loïc Rochard, Benoît Simoneau, patron de DPC et le nouveau président de la maison de l'emploi du Bocage Bressuret. L'orchestre à l'école va connaître un nouveau cycle à la rentrée de septembre. 4 nouvelles classes sont retenues dans le Bocage Bressuret. Quant à la météo, de belles éclaircies, parfois quelques passages de nuages et du vent, c'est le programme de l'après-midi. Le gouvernement a donc annoncé mercredi dernier la suspension du dispositif MaPrimeRénov en raison d'un afflux massif de dossiers et de nombreuses tentatives de fraude. L'objectif étant, je cite, de rétablir des conditions opérationnelles saines pour les services administratifs saturés depuis le début de l'année. Mais alors que le domaine de la construction neuve est en berne, les professionnels misent sur le secteur de la rénovation grâce aux aides accordées aux propriétaires. Or, aujourd'hui, ces mêmes professionnels s'interrogent. Quant à l'avenir, à l'image de Mickaël Berthelot à la tête d'une entreprise de travaux publics à Courlay, tout nouveau président de la CAPEB des Deux-Sèvres, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, qui compte dans notre département 550 adhérents, représentant quelque 3500 salariés.
Nos clients qui, aujourd'hui, ont des projets d'une vie, on ne peut pas leur dire le matin, vous avez le droit à des aides, et le soir, dire, ben, vous n'y avez plus le droit, et puis le lendemain matin, leur dire, ben, peut-être qu'on ne sait pas. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est des dispositifs qui soient pérennes dans le temps et avoir une feuille de route. Alors, les conséquences seront forcément là. Parce qu'aujourd'hui, on a un marché de la rénovation énergétique et rénovation amélioration qui, on va dire, est stagnant. Le fait demain, si la MaPrimeRénov supprime, ça sera l'ensemble des entreprises du bâtiment qui seront impactées. Déjà qu'on a un marché du neuf qui est à peu près à moins 13% sur l'année 2024, ces entreprises ont été résilientes et ont arrivé pour certaines à se mettre sur le marché de la rénovation. Si demain la rénovation s'effondre, c'est forcément des emplois qui seront touchés et aussi des entreprises qui vont fermer. Nous sommes déjà à plus 25% de liquidation judiciaire dans le secteur du bâtiment par rapport à l'année dernière. C'est un stress. Demain, vous pouvez pas vivre décemment en sachant que votre emploi est menacé. Et l'emploi de vos salariés, parce que dans nos valeurs humaines, c'est aussi l'emploi de nos salariés qu'on défend. Dans une entreprise artisanale, on crée un emploi, c'est pas un emploi intérim qu'on balance quand l'activité va mal. Nous sommes des gens qui ont des valeurs, et nos valeurs, ben c'est l'emploi qu'on veut pérenniser.
La réaction de Mickaël Berthelot, le nouveau président de la CAPEB des Deux-Sèvres, après la décision donc du gouvernement de suspendre le dispositif MaPrimeRénov. Le président de la Fédération française du bâtiment des Deux-Sèvres, Franck Michelon, s'exprimera lui sur le sujet cet après-midi à Niort lors d'une conférence de presse. Agur va remplacer Veolia le 1er janvier 2026 sur le territoire du SVL. Cette entreprise familiale a en effet remporté la concession du service public de la distribution d'eau potable, à la surprise générale, puisque cela faisait 70 ans que Veolia, anciennement Compagnie Générale des Eaux, détenait le marché, Fabien Gazo.
D'autant plus étonnant que le syndicat du Val-de-Loire saluait régulièrement la qualité du travail effectué par les agents de Veolia. Oui, mais voilà, Agur a présenté la meilleure offre pour les 10 ans à venir, intéressante sur le plan financier et garantissant une gestion de très bonne qualité. Jean-Baptiste Fagal, des directeurs de zone chez Agur, il a participé à l'élaboration de l'offre et aux discussions avec les responsables du SVL.
Agur, nous sommes une entreprise familiale, régionale, on fait partie du groupe Etchar, qui compte 2000 salariés dans le Grand Sud-Ouest. À Agur, on gère les contrats de villes comme la ville de Saintes, la ville de Villeneuve-sur-Lot, la ville de Cognac. On gère aussi les communes autour du bassin d'Arcachon ou toute la partie côtière du sud du Pays Basque.
Alors, vous êtes habitué à reprendre des contrats comme celui-ci. Ça veut dire que ça vous confère une certaine expérience dans ce type de situation ?
Oui, tout à fait. Ça fait plus de 20 ans que l'entreprise se développe. On a fait de nombreuses reprises de services, plus de plus de 40 sur les 20 dernières années, je pense une bonne vingtaine sur les 10 dernières années. Donc c'est vrai qu'on a une expérience importante, on va dire, dans la reprise des contrats.
Mercredi soir, à notre micro, Dominique Régnier, la présidente du SVL, indiquait que Agur, conformément aux dispositions en vigueur dans ses marchés de services publics, devrait faire des propositions aux agents de Veolia, sachant que 80% de l'activité de l'agence Bressuirez est liée au syndicat. Jean-Baptiste Fagald, directeur de zone chez Agur.
On reprendra le personnel, en tout cas on fera des propositions pour reprendre ce personnel-là, des propositions qui sont à minima équivalentes à celles qu'ils ont aujourd'hui. Donc les salariés qui travaillent aujourd'hui sur le syndicat n'ont pas à s'inquiéter sur leur avenir. Nous leur proposerons des contrats équivalents à leurs contrats actuels. On a fait de nombreuses reprises, on a repris des salariés de Veolia, on a repris des salariés de Suez. On a repris des salariés de sort, quoi, des différentes entreprises pour lesquelles nous rentrons en concurrence. Et ça n'a jamais causé de difficultés. Aujourd'hui, ces différents salariés travaillent chez nous, sont satisfaits de leurs conditions de travail. Et donc, nous n'avons aucune inquiétude sur le fait de reprendre ces salariés dans de bonnes conditions pour eux. Et nous avons tout à fait les moyens de les reprendre.
Veolia fait appel à pas mal de prestataires, visiblement. Vous avez plutôt l'habitude de travailler en interne, hein, c'est ce qu'on nous a dit en tout cas.
Oui, exactement. On a plutôt l'habitude de travailler en interne. Voilà, on prend aussi en considération les habitudes qu'il y avait sur un territoire, les bons fonctionnements qu'il peut y avoir aussi. Et voilà, on rencontrera aussi les entreprises concernées pour trouver le meilleur équilibre pour tout le monde.
Quant aux usagers, il n'y aura pas d'incidence majeure vraisemblablement du fait de la fin de ce contrat avec Veolia aux dépens donc du nouvel opérateur Agur. Le prix de l'eau facturé aux abonnés restera toujours du ressort du syndicat du Val-de-Loire.
Merci Fabien Gazot. Fer de Thouars, le premier centre de production français d'huile bio, eh bien c'est fait. Dans quelques jours, l'usine thouarsaise du groupe Oléosine, qui réunit les géants Sanders, Cavac, Terena, Avril et Aurouz, va booster une production locale implantée il y a 5 ans. Grâce à de nouvelles lignes de trituration et de raffinage, la production d'huile à 100% bio atteint des volumes olympiques. L'analyse du président général Philippe Manry au micro-colline de notre correspondant Thouars, c'est Dominique Hérault.
À Thouars, ici, donc une fois qu'on a extrait l'huile par un système complètement mécanique de cuisson, on la raffine pour qu'elle soit disponible pour l'utilisation pour le consommateur ou pour l'industrie de boulangerie ou tout ce qui est industrie destinée à l'agroalimentaire. Aujourd'hui, l'huile bio est utilisée pour la consommation humaine, mais il y a également des utilisations autres. La cosmétique peut en faire partie.
En quoi est-ce que le projet de toi est-il exemplaire?
Il est exemplaire pour plusieurs choses. Il a déjà été fédérateur dans sa conception. C'est un projet collectif qui rassemble plus de 1000 producteurs bio de cette grande région et qui a pour but de ramener de la valeur aux agriculteurs. On va produire de la graine dans la région, on va la triturer, on aura de l'huile régionale. Et puis, j'oublie pas la partie protéine, puisque le tourteau sert à l'alimentation des animaux en agriculture biologique.
Le tourteau, c'est cette galette végétale résiduelle après les différentes pressions des graines pour en extraire de l'huile raffinée. Mais cette huile, peut-on la trouver en tant que telle dans les commerces? La réponse de Philippe Manry.
Pour l'instant, non. Donc, pour l'instant, on s'adresse plutôt à des gens dont le métier, c'est de mettre nos huiles en marché, soit dans la restauration en foyer, soit en bouteille. Donc, pour l'instant, non, mais on s'interdit pas de pouvoir, mais on reviendra avec plaisir vers vous quand on pourra vous donner un réseau local qui pourra prouver que l'huile est locale et vient de cette belle usine de Thouars.
Des chiffres derrière cette galaxie. L'huile Oléosine à Thouars, c'est 35 000 tonnes de colza tournesol 100% français et 25 000 tonnes de soja, produite pour moitié entre la France et les Pays-Bas. C'est aussi un investissement de près de 12 millions d'euros. La région Nouvelle-Aquitaine et l'Europe ayant soutenu conjointement ce projet à hauteur d'un demi-million. Un dernier chiffre qui en dit long sur l'automatisation du système qui fonctionne 7 jours sur 7 pour traiter tous ces transits. L'usine de Thouars se contente d'un effectif de 13 techniciens. Reportage de Dominique Hérault. Benoît Simoneau, nouveau président de la Maison de l'Emploi du Bocage Bressuirey. Le patron de DPC a été élu avant-hier par le conseil d'administration, succédant ainsi à Loïc Rochard. La présidence est en tournante entre les différents collèges qui composent la MDE. Le tour était venu à celui des employeurs et Bruno Simoneau s'est porté candidat. Administrateur depuis 8 ans maintenant, il connaît bien la Maison de l'Emploi qui œuvre au dialogue social territorial en mettant autour de la table tous les acteurs concernés.
La marque de fabrique de notre On s'est discuté, échangé, et puis même s'il y a des sujets sur lesquels on n'est pas forcément tous d'accord, on est suffisamment intelligent pour travailler dans le bien commun et puis faire en sorte que les choses avancent. La Maison de l'Emploi, c'est quand même un organisme qui est important pour notre territoire, et c'est à la fois Maison de l'Emploi et mission locale. Il y a beaucoup de choses qu'ils décident pour aider nos enfants, les jeunes en difficulté, pour construire leur carrière professionnelle et puis les aider dans le démarrage de leur vie active. C'est un organe, moi, que j'ai découvert il y a 8 ans, où je vois beaucoup de choses très très intéressantes qui s'y pratiquent. Et puis après 8 ans, je suis content d'essayer de continuer à accompagner toute l'équipe qui est en place à côté d'Alain Robin, qui lui est le directeur, qui travaille au quotidien pour faire vivre ces structures.
Benoît Simoneau, qui avec la direction et le bureau devra sans doute résoudre les équations dans les mois qui viennent, car les subventions de l'État et du département sont en baisse. On parle là de 60 000 euros.
C'est un sujet clé, c'est un sujet sensible, parce que c'est vrai que la Maison de l'Emploi vit notamment de subventions publiques, et donc quand l'État resserre les boulons un petit peu partout, qu'il y a des baisses de dotation, c'est d'autant plus compliqué. Après, y a des événements qu'on souhaite continuer à organiser, voire redévelopper encore, des événements phares organisés par la mission locale, la Maison de l'Emploi. C'est le COFEM, le carrefour de l'emploi, des métiers, de l'orientation. Toutes ces choses-là, s'il n'y a plus de budget derrière, c'est un petit peu plus compliqué. Puis la Maison de l'Emploi, il y a aussi toute une équipe avec des salariés. Donc si demain, il y a des baisses de dotation, c'est un peu compliqué aussi le maintien de certains emplois. Or, aujourd'hui, on n'en est pas là, mais il faut sécuriser tout ça et faire en sorte que ça puisse continuer à vivre, d'autant plus que c'est une structure qui travaille bien, qui fait du bon boulot. Faut continuer sur la lancée.
Benoît Simoneau, nouveau président de la Maison de l'Emploi du Bocage Bressuirey, interrogé par Fabien Gazot. Julien Scolari, nommé directeur territorial d'Enedis pour les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité auprès des collectivités et des acteurs du territoire. Âgé de 39 ans, Julien Scolari était jusqu'à présent directeur de cabinet du DRH au sein de la direction des ressources humaines d'Enedis. Il succède à Laurent Ligori. Le Rempart Festival revient pour sa 4e édition ce week-end dans un tout nouveau lieu, la prairie du haut du château de Bressuire. Un cadre exceptionnel, à ciel ouvert, qui permet de faire vibrer le public dans une ambiance chaleureuse, festive et résolument conviviale. Demain, la scène s'enflammera avec une soirée dédiée au rock et aux musiques électroniques, alors que dimanche sera consacré aux musiques du monde. Nous y reviendrons plus longuement dans l'édition de 18h. L'orchestre à l'école va connaître un nouveau cycle. Les 4 classes engagées depuis 3 ans dans l'aventure vont rendre leurs instruments. Et avant cela, les élèves de Duguay-Clin à Bressuire, Perrochon à Cerisé, Violine à Clessé et du Moulin à Lapsy vont se produire lors des portes ouvertes de la Maison des Arts le 21 juin. Les 4 nouvelles classes sont connues et il y avait de l'attente puisque 15 écoles avaient candidaté. Stéphanie Pinot-Coulon, la directrice du Conservatoire de musique.
Il s'agit de l'école Sainte-Luce de Saint-Aubin-de-Bobigny, de l'école Jacques Prévert de Nueil-les-Aubiers, de l'école La Gatinelle de La Chapelle-Saint-Laurent et l'école Duguay-Clin de Bressuire dans le cadre du dispositif politique de la ville. C'est un réel succès. L'orchestre à l'école est vraiment facteur d'émulation, de responsabilisation, de solidarité dans les classes. Ça renouvelle les liens entre la famille et l'école et la vie locale. Et donc, il y a vraiment un côté musical, éducatif, artistique et culturel, mais également une dimension citoyenne très forte.
Alors, il y a donc un vrai choix à faire, mais il s'établit vraiment sur des critères réfléchis. Hein.
Nous invitons le binôme école-commune à candidater avec une lettre, on va dire, de motivation. Ensuite, avec mes collègues du conservatoire, on organise vraiment des réunions techniques. Donc, on se rend dans toutes les écoles, on rencontre les équipes, on vérifie, je dirais, l'adéquation technique et les envies. Et puis ensuite, donc, c'est un arbitrage politique. Il y a aussi des considérations organisationnelles.
Les orchestres et l'école commenceront donc un nouveau cycle en septembre prochain, je vous les rappelle. L'école Sainte-Luce à Saint-Thomas-de-Bobigny, la Gatinelle à la Chapelle-Saint-Laurent, Prévert à Nuay-les-Aubiers et Duguay-Clin à Bressuire pour une durée de 3 ans sur les cycles CE et CM. L'association des Colibris Toircé organise un atelier de co-réparation demain samedi de 14 à 16h à leur local au 26 rue Thiers à Thouars. C'est là que des techniciens bénévoles peuvent réanimer des objets en panne et les sauver de la déchetterie. Cette sorte de répare-café est gratuit et ouvert à tous. Un petit mot de sport. Louis Robichon n'est plus l'entraîneur des filles du Samandball qui évolue en National 2. Il prend en effet la direction de Thuir dans les Pyrénées-Orientales pour reprendre en main l'équipe féminine de niveau national. Localement, il sera remplacé par Jérémy Astier, déjà au sein du club Montcoutenté. Arrivé à l'été 2024, Crescendo ne portera plus les couleurs de Cholet Basket la saison prochaine. Joueur clé sur le plan défensif, il s'est illustré par son intensité sur le parquet. Malgré une fin de parcours marquée par les blessures, il a su démontrer ses qualités sur le terrain.